Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 1, versets 2 à 13. Genèse, chapitre 1, versets 2 à 13. Alors, on peut commencer même par le verset 1, on va l'inclure. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Alors, on va demander au Seigneur de bénir notre étude, de nous ouvrir l'intelligence à la compréhension et à l'application des leçons qui sont dans sa parole. Notre Dieu, nous sommes réunis en ce jour que tu as toi-même institué pour l'adoration, la prière. Et Seigneur, nous devons, le mieux que l'on peut, élever nos esprits pour découvrir ta gloire, toutes tes merveilles que tu as créées. Et Seigneur, nous savons que même avec toute notre intelligence et tous les moyens que tu nous as donnés, cela ne suffira pas. Nous avons besoin, Seigneur, que ton esprit élève notre intelligence, nous ouvre la compréhension, Seigneur, de ta parole, parce qu'il y a tellement de choses à comprendre et surtout, Seigneur, à obéir, à appliquer dans nos vies si on veut qu'elles portent du fruit. Alors, Seigneur, on sait que ce n'est pas suffisant d'entendre ta parole, il faut qu'elle soit accompagnée d'obéissance, sinon elle risque de demeurer stérile. Alors, Seigneur, on te prie de nous bénir ce matin, que ton esprit nous guide, nous élimine notre intelligence et fasse en sorte qu'on comprenne ta douce et sainte parole, Seigneur, pour ta plus grande gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Alors, juste pour faire un bref résumé de ce qu'on a vu à venir jusqu'à l'heure actuelle, dans le chapitre 1 de la Genèse, on a vu dès le premier verset que la Bible affirme catégoriquement que Dieu a créé les cieux et la terre et que ce n'est pas, comme on a vu dans les leçons précédentes, ce n'est pas le produit de l'évolution. C'est une création que la théologie utilise le terme « ex nihilo », ça veut dire « à partir du néant ». Alors, la parole même de Dieu, juste par le fait d'avoir parlé, a fait naître l'univers et tout ce qui est dedans, les cieux et la terre. Et on avait, lors des leçons précédentes, donné une idée de la grandeur de l'univers. Et plus on comprend ça, plus on comprend la puissance que nécessitait la parole de Dieu pour qu'il puisse accomplir une telle affaire. L'autre chose qu'on avait regardé, c'est que Dieu, dans le verset 2, dit que la terre était informe et vide, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Dans les leçons précédentes, aussi, on avait passé deux leçons à démontrer que les 6 jours de la création sont des jours littéraux de 24 heures, 6 jours de 24 heures. Je sais qu'aujourd'hui, ça fait pas très, on dirait qu'on a l'air arriéré un peu quand on croit cela. On aime mieux, des fois, donner crédit à la science. Mais comme je vous avais mentionné, ça, je tiens à le répéter parce que vous allez l'entendre souvent au cours de la, dans le livre de la Genèse, parce que je tiens à ce que ça rentre. Dieu a créé l'univers en 6 jours, littéro de 24 heures. C'est important de prendre Dieu au mot dès le départ. Je vous ai déjà dit que quand on écoute les arguments des évolutionnistes, on a l'air, comme on pourrait dire, des deux de pique, parce qu'ils nous amènent des arguments qui ont l'air tellement puissants que bien souvent, on n'a pas la connaissance scientifique pour être capable de leur répondre. Mais ce que je vous ai dit depuis les semaines dernières, et je tiens à le répéter, parce que c'est important qu'on le saisisse, si moi, je ne suis pas capable de, on pourrait dire, comme on dit en québécois, m'accoter avec un scientifique pour dire que lui, il m'affirme que c'est le produit de l'évolution et tout cela, bien, je peux vous dire une chose, des scientifiques chrétiens, il en existe plein. Et ils ont répondu à toutes leurs argumentations démontrant que c'est faux. Alors, il ne faut pas avoir peur de s'affirmer et de dire, moi, je ne suis pas capable de te répondre, mais je peux t'envoyer sur des sites web où les chrétiens sont très compétents. Il y a des chimistes, des archéologistes, il y a toutes les sciences possibles et imaginables que eux, ils ont fait les études, puis eux, ils peuvent démontrer que oui, la Terre, on croit à la Terre jeune, donc entre 6000 et 10 000 ans. On croit à la Terre créée ex nihilo à partir du néant, parce qu'on croit ce que la Bible dit. Et on avait vu aussi dans Hébreux que la Bible nous dit que croire à ce que Dieu a créé les choses à partir du néant, c'est un acte de foi. C'est une démonstration qu'on croit vraiment le Seigneur. Alors tout ça pour dire... Dans ces chapitres-là, on avait vu, la semaine dernière, on avait vu tout le chapitre 1. Dans le fond, ça avait vu, le but de ça, c'était pour démontrer les 6 jours de la création, sont 6 jours littéraux de 24 heures, et non le produit de l'évolution. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on revient un petit peu. On était rendu jusqu'au verset 31, la semaine passée. On a l'air de reculer, mais on ne recule pas. On va voir que la création s'est faite en... On pourrait voir ça... Comme les 3 premiers jours, aujourd'hui, on va voir juste les 3 premiers jours. On voit qu'il y en a 6. Le 7e, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est reposé. Donc, les 3 premiers jours, j'appellerais ça l'arrière-plan du drame créationnel. Pourquoi l'arrière-plan? Parce que Dieu avait créé, et on disait que la terre était informe et vide, donc pour que la vie humaine puisse apparaître, il fallait qu'il crée certaines conditions, comme justement, on va voir tantôt la lumière, on va voir l'étendue, on va voir la verdure. Alors, il fallait, pourquoi j'ai appelé ça, les 3 premiers jours, c'est comme l'arrière-plan. Tu sais, quand on fait du théâtre, là, l'arrière-plan, après ça, en avant, il y a quoi? Les acteurs. Les 3 derniers jours, ça va être les acteurs du drame créationnel. Pourquoi j'appelle ça le drame créationnel? Quand on lit le livre de la Genèse, plusieurs sont portés à penser que les premiers chapitres de la Genèse sont là pour donner des réponses à nos questions scientifiques ou philosophiques. La Bible ne nous donne pas le livre de la Genèse pour ce but-là. Le but du livre de la Genèse, le but de toute la Bible au complet, c'est de nous présenter pourquoi on est des pécheurs, pourquoi on est perdu, comment c'est arrivé, parce qu'on n'a pas été créé comme ça, pourquoi il y a eu une chute, quand elle a eu lieu, quelles étaient les conséquences de toutes ces choses-là, et comment Dieu a pourvu, dès le livre de la Genèse, dans le chapitre 3, verset 15, la première prophétie concernant la venue future de Christ. Si on prend le livre de la Genèse et l'ensemble de la Bible, et qu'on l'interprète en se rappelant que le livre de la Bible est christocentrique, le but de la Bible, c'est de développer la connaissance de Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était la connaissance du Christ à venir. Et dans le Nouveau Testament, c'est la connaissance du Christ venu. Voyez-vous? Alors, toute la Bible est christocentrique. Et si on ne comprend pas ça dès le départ, la Bible, c'est pas un livre de science, c'est pas un livre de philosophie, c'est un livre qui nous présente notre problème et qui nous présente la solution de Dieu qui tout est concentré sur la personne de Christ. Si on ne comprend pas ça, à quelque part, on peut errer et interpréter la Bible de façon tout croche. Alors, le verset 2 du chapitre 1, qu'on vient de voir, nous apprend que la terre n'était pas encore prête pour accueillir la vie tout court, et en particulier la vie humaine. Ça te dit, était informe et vide. Et alors, il fallait que le Seigneur crée les conditions idéales. Et dans les trois premiers versets, on va voir la lumière, l'atmosphère, que l'océan sans rivage, parce que le Seigneur, il y avait plein d'eau, a permis que l'eau, la terre sorte, que l'eau prenne sa place, les rivières prennent leur place, les lacs prennent leur place, que tout prenne sa place, et fait ça avec sa parole. Quand on comprend la puissance du Seigneur là, pour faire une chose semblable, on ne peut pas faire autrement que d'être émerveillé. Donc, il fallait que la terre ferme apparaisse, les mers, les lacs, les rivières prennent leur place, et qu'apparaisse la verdure qui est la première forme de vie, mais cette fois-là inconsciente. Pour ça que j'appelle ça, les trois premiers jours, l'arrière-plan du drame créationnel. Et après ça, les acteurs vont arriver, et après ça, on va voir comment les acteurs ont agi, quelles ont été les conséquences de leurs choix, de leurs décisions, et comment Dieu, dès le départ, avait déjà, dans Genèse 3 à 15, fait une prophétie sur la venue future d'un Messie qui viendrait régler le problème du péché de l'homme. Alors, les trois premiers jours, c'est vraiment l'arrière-plan du drame créationnel. Et les trois derniers jours, on va le voir la semaine prochaine, c'est vraiment les acteurs du drame créationnel. Alors, on va voir que Dieu ajoute des choses et que là, éventuellement, l'homme arrive le sixième jour et que là, après, on va voir comment tout ça est arrivé au jardin et où Adam et Ève ont chuté et ça a emmené le péché dans le monde et la gravité du péché. Souvent, on lit ça, on ne se rend pas compte de la gravité de ce que Adam et Ève ont introduit dans le monde. Il faut vraiment étudier la Bible un petit peu plus en profondeur pour se rendre compte que, à cause de sa chute, nous, on est nés pécheurs. Tous les êtres humains, excepté un, et c'est Jésus-Christ, lui a mis péché. Mais tous les autres humains, quand on est pécheur, et on est séparé de Dieu, et si Dieu ne nous fait pas la grâce de venir nous chercher et de nous révéler la glorieuse personne de son Fils et son œuvre, et que nous, on y prête, on y donne foi, bien, quelque part, si une personne décède comme cela, elle s'en va directement dans le lac de feu pour l'éternité dans l'enfer. C'est parfois, ça peut être difficile à croire. Voyons donc, moi j'ai entendu du monde dire, voyons donc, voir si Dieu a envoyé du monde en enfer, alors qu'ils ont fait des choses que moi-même je serais disposé à leur pardonner. La chose qu'ils ne comprennent pas, c'est que toi tu serais peut-être disposé à pardonner parce que tu es un être fini. Mais quand tu pèches contre un être infini et ton péché est vraiment infini. Et ça prend une œuvre divine pour venir. Alors, quand quelqu'un comprend c'est quoi le salut, le vrai salut biblique, pas un semblant ou un succès d'année, mais il comprend que, dans le fond, c'est une grâce tellement profonde, tellement riche, tellement diversifiée, que toute une vie d'étude des Écritures ne suffira pas pour que tu en comprennes toutes les facettes et toute la profondeur. Et même, quand tu vas arriver au ciel, penses-tu que quand tu vas arriver au ciel, tout ce qui concerne Christ, tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne le Saint-Esprit, que tu vas avoir tout compris? Non. Parce que tout cela, ça va prendre l'éternité. Tu vas découvrir de plus en plus la gloire de Dieu, sa beauté, sa richesse et tout ce qu'il a fait, son œuvre de rédemption, son œuvre de création, tu vas mieux comprendre. Tu vas comprendre aussi son œuvre de providence. La providence, c'est tout simplement le déroulement de toutes nos circonstances de nos vies, pas seulement au niveau individuel, mais au niveau des collectivités aussi. Dieu a tout planifié ça, et ce qui arrive dans nos vies, c'est ce qu'il avait décrété. Alors, on avait dit que les Saintes Écritures sont christocentriques, si vraiment on comprend ce principe-là dès le départ, quand Christ a rencontré les disciples d'Emmaüs, vous souvenez-vous qu'est-ce qu'il a fait dans le chemin avec eux? Il a commencé à leur expliquer tout ce qui le concernait à partir de la Genèse aller jusqu'à l'époque où il vivait. Il ne va pas lui parler du Nouveau Testament, il n'a pas écrit encore. Mais tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament, il leur a fait comprendre. Autrement dit, ça démontrait, Christ lui-même démontre que le but des Écritures, c'est de révéler la personne de Christ. Pour ceux de l'Ancien Testament, Christ à venir. Pour ceux du Nouveau Testament, le Christ venu. Alors, les trois premiers chapitres de la Genèse ont pour but de nous informer sur l'origine de l'univers et l'origine de l'homme en particulier. Il nous apprend également comment Adam, le premier homme, introduit le péché et la mort dans le monde. Et là, c'est important parce que nous, bien souvent, ce qu'on voit, c'est que Dieu dit « Si tu manges ce fruit, tu mourras ». Ce qu'on ne comprend pas, parce qu'on l'apprend plus tard dans le développement de nos lectures des Saintes Écritures, c'est quelle sorte de mort. La mort physique, on va tout y passer, sans aucune exception. Mais le Seigneur voulait dire aussi la mort spirituelle. Quand un être humain vient au monde, spirituellement, il est mort. Vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés, que dit Éphésiens 2. On était mort. Aux yeux de Dieu, la vie spirituelle n'existait pas. Il fallait qu'il la recrée, la nouvelle naissance. On était né physiquement, le corps était là, mais on n'était pas vivant spirituellement. Quand Dieu vient nous faire la grâce de nous montrer qu'on est perdu, de nous montrer qu'on est pécheur, de nous révéler la glorieuse personne de Christ et son œuvre, et là, il le fait par le moyen du Saint-Esprit, sinon on resterait dans notre péché. Et ça, c'est une grâce merveilleuse. On a besoin de saisir ça. Pourquoi on parle du premier Adam et pourquoi c'est important de croire que c'est réellement une personne qui est le premier homme qui a existé, créé directement par Dieu? C'est parce que les Écritures utilisent l'image de Adam, le premier homme, comme de quoi il a fait rentrer le péché. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, Dieu nous dit que la personne de Christ est le second Adam. Donc, on a chuté dans le premier Adam et Dieu nous a fait renaître et nous a donné la vie spirituelle par le second Adam qui est Jésus-Christ. Alors, dans le chapitre 3, on va y aller avec le fun, chapitre 3. Le premier endroit où on parle de Christ de façon directe, de façon prophétique, c'est vraiment Genèse 3, 15, où après la chute, Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, à qui il parle du serpent, il parle de Satan, il va mettre inimitié entre lui et la femme, et entre ta postérité, autrement dit, tous les enfants qui vont venir au monde après toi, là, c'est sa postérité, tous les êtres humains qui naissent, qui n'ont pas la vie spirituelle, et sa postérité. Et les Écritures nous disent que la postérité de la femme, c'est Christ. Alors, ils vont mettre une inimitié entre Christ et sa postérité, ceux qui sont nés spirituellement, ils vont mettre une inimitié entre les deux. Puis il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Lisez n'importe quel livre de théologie, on va vous dire que Genèse 3.15, c'est le proto-évangile. Proto, ça veut dire la première mention dans les Écritures où Dieu prophétise sur la venue future d'un Messie, d'un Sauveur. Et dans ce verset-là, bien sûr, il faut aller plus profondeur dans Genèse 3 pour comprendre cela et mettre ça en relation avec d'autres versets des Écritures. Mais c'est la première mention. C'est important. Déjà, on voit que Dieu nous montre l'arrière-plan, Dieu nous montre les acteurs, Dieu nous montre qu'est-ce que les acteurs ont fait, quelles sont les conséquences de leur péché, de leur décision, et après, qu'est-ce que Dieu déjà disait? Oui, mais un jour, le Messie va venir, qui va tout arranger les problèmes dans lesquels vous vous êtes plongé vous-même. Alors, on se doit d'interpréter les trois premiers chapitres de la Genèse à la lumière du Christ eschatologique. J'ai beaucoup aimé cette expression-là parce que ça m'a aidé à comprendre quelque chose. Il y a un presbytérien qui a écrit un livre qui s'appelle « Lasting First ». Autrement dit, les choses à la fin en premier. Ce qu'il veut démontrer, c'est que Adam est le premier homme et il y a un parallèle qui se fait avec le second homme. Et ça, c'est tout le déroulement de la Bible. Si on dit que le premier homme, ce n'est pas un véritable homme qui a chuté, qui a amené les conséquences du péché, on est en train de dire, bon, l'être humain a sorti des petites bébites de la mer, puis là, les petites bébites sont devenues de plus en plus grosses, et là, un jour, c'est devenu un singe, puis un jour, on s'est transformé de singe à homme, ou qui est le premier homme? Ou si est-ce que les Écritures nous disent que Adam a existé? C'est Dieu qui l'a mis au monde, et c'est à cause de lui et de son épouse Ève que le péché est rentré dans le monde. Mais si on ne croit pas le premier Adam, comment on peut croire quand on arrive dans 1 Corinthiens 15 qu'on parle du second Adam, où Paul utilise l'expression, utilise l'idée du premier Adam qui nous a fait entrer le péché dans le monde et utilise le second Adam pour venir nous dire que lui, le second Adam, il a réglé le problème du monde. Luc, tout à l'heure on parlait de Luc 24, verset 27. En disant que les Écritures... Pourquoi je dis le Christ? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que ça nous parlait du Christ eschatologique. Eschatologie, ça veut dire les choses de la fin. Christ eschatologique, ça ne nous parle pas juste du Christ. Ça nous parle du Christ lors de son retour, lors de la fin. Pourquoi? Les Écritures nous parlent du Christ eschatologique. Dans le sens qu'on sait comment le péché est rentré dans le monde, mais on sait comment le péché va sortir du monde. Eschatologie, la fin. Par le second Adam. Garder le parallèle entre les deux, croire ce que les Écritures nous disent, c'est extrêmement important. Alors, on disait que dans Luc 24, 27, quand on dit que les Écritures sont christocentriques, donc tout parle de lui dans les Écritures, si quelqu'un s'habitue à lire les Écritures, tous les livres de la Bible, et à chercher Christ dans les Écritures, il va le trouver, ça c'est sûr et certain. Demandez au Saint-Esprit, quand vous lisez les Écritures, de vous montrer Christ partout. Il est partout. C'est que souvent, on ne le voit pas, mais il est là. Il est là en symbole, il est là en toutes sortes de choses, en ce qu'on appelle en type. Il y a plein d'endroits dans les Saintes Écritures qu'on nous parle. Et on va aller voir Luc 24, 27, parce que... Et là, c'est Christ qui parle avec les disciples d'Emmaüs sur le chemin, après que la crucifixion a eu lieu. Là, les disciples s'en retournent, puis ils comprennent plus rien. Oh, on attendait le Messie. Le Messie était supposé nous libérer des Romains. Là, on comprend plus rien. Ils l'ont crucifié, puis il est mort. Donc, c'était pas lui le Messie. Et là, Christ leur explique les Écritures. Il dit, et commençant par Moïse. Moïse, c'est la Genèse, tous les cinq premiers livres de la Bible, les prophètes. Et il dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? On parle de moi dans tous les livres de la Bible. Après ça, il dit, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Et que j'aurais aimé entendre ça. Il y en a qui ont fait des livres là-dessus, là. Ils ont pris tous les versets de tous les livres de l'Ancien Testament et ils ont cherché à extraire ce qui parle de la venue future de Christ sous forme de symboles, sous toutes les formes. C'est des livres extraordinaires à lire. Dans Romains, chapitre 5, verset 14, ça nous dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » Donc, Paul, il croit à Adam. Il ne croit pas que c'est le produit de l'évolution. Il dit, cependant, la mort a régné depuis Adam. Ça veut dire qu'il ne croyait pas que la mort ait existé avant Adam. Si vous croyez à l'évolution, vous êtes en train de dire que la mort est entrée avant l'arrivée du péché. Ce qui est faux, théologiquement. Il dit, depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel, écoutez bien là, lequel, il parle de qui, là? Adam, le premier homme. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Il parle de Christ. Et là, on va aller dans 1 Corinthiens. Il faudrait à peine que vous y allez, vous avez vos Bibles. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 à 23 et versets 45 à 49. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 15, c'est un chapitre, si on devrait apprendre ça par cœur. 1 Corinthiens, chapitre 15, ça parle de quoi? De la résurrection. Alors, verset 21, « Car puisque la mort est venue par un homme. » Voyez-vous, faut, quand on lit les Écritures, faut peser le sens des mots. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Donc, il est en train de vouloir établir le parallèle qu'il y a entre le premier Adam et le second Adam. Et verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, » c'est ça que je vous ai dit tantôt, « on meurt en Adam. » Mais la mort qu'on a, c'est pas juste la mort physique, c'est la mort spirituelle et la mort éternelle. Il faut comprendre que la mort a trois facettes. La mort physique, on va tout y passer. La mort, avant d'être régénéré par le Saint-Esprit, on était mort spirituellement. Et si on décédait dans l'état de mort spirituellement, on allait à l'enfer pour l'éternité. Et la mort éternelle, c'est que quand Dieu vient nous donner par son Saint-Esprit la révélation que nous sommes perdus, que nous sommes des pécheurs et qu'il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir, qu'on pourrait dire, c'est de recevoir la grâce de Jésus-Christ et de comprendre que ce que Dieu exigeait de chacun d'entre nous, c'était une obéissance parfaite au décalogue, aux 10 commandements de Dieu. Une obéissance parfaite, là, je ne sais pas si vous... On est en train de faire des leçons en bas le dimanche matin sur les explications des 10 commandements. Je peux vous dire une chose, ça vaut la peine de le faire l'étude. Parce que les dix commandements de Dieu sont l'expression de ce que Dieu exige à chacun d'entre nous. Une obéissance parfaite, totale, absolue, sans aucune faille. Faut pas t'y mentir une fois, faut pas t'empêcher d'aucune sorte, parce que les 10 commandements, c'est l'expression de la volonté morale de Dieu envers ses créatures. On a tous manqué, je sais pas, je devrais dire des millions, là, mais je penserais que je suis pas mal dedans en disant des millions, surtout pour des adultes, là. J'irais jusque-là, je pense. Alors que les Écritures nous disent que si on a manqué une seule fois à un seul commandement, Dieu avait le droit de nous faire plonger dans le lac de feu pour l'éternité. C'est assez spécial. Et là, il te demandait une obéissance parfaite. N'as-tu un d'entre nous qui peut lever la main et dire « Ah, moi, j'ai jamais péché. » Je vous dirais « on viendrait dans le bureau, on va se parler un peu. » Et non seulement ça, mais Dieu avait dit aussi que si tu pêches, Dieu se doit de te juger et le jugement, c'est l'enfer éternel. Donc, à quelque part, il y avait un montant de souffrance qui était rattaché au jugement du péché dans ta vie. Et vu qu'on a tous péché, on n'a pas tous péché de la même façon. Moi, je suis rendu à 79 ans, donc j'en ai connu pas mal. Si Dieu donne une punition proportionnelle au nombre de péchés que tu as fait, plus tu es vieux, plus tu en as fait, plus ta punition est sévère, plus ta punition est grande. Mais si toi, tu ne subis pas ton châtiment, parce que le fait d'être sauvé, ça dit, on est sauvé, mais on est sauvé de quoi? On est sauvé du châtiment éternel que Dieu avait le droit de nous infliger. Mais si on est sauvé du châtiment, ça veut dire que de deux choses l'une, l'obéissance qu'il me demandait, il fallait que ce soit un autre qui l'ait accompli à ma place, et la punition que je devais subir, il fallait que ce soit quelqu'un qui l'ait pris à ma place. Et c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est que Dieu te rouvre l'intelligence à la compréhension que tu étais un pécheur, perdu, condamné, s'en allant directement en enfer, à moins que tu ne reçoives sa grâce. Et quand tu reçois sa grâce, Dieu fait en sorte que par le Saint-Esprit, tu comprends la grandeur infinie de l'exigence de Dieu au point de vue moral, puis il dit « Nul ne vivra en ma présence sans qu'il ait ça. » Et puisque je ne suis pas capable de l'avoir par moi-même, qu'est-ce que je peux faire? c'est de croire qu'un autre l'a fait à ma place. Et Christ l'a fait à notre place. La foi, c'est tout simplement croire que les exigences que Dieu avait envers moi ont été accomplies à la perfection. C'est pour ça qu'on parle de la robe de justice de Christ. Elle est blanche, elle est immaculée, elle m'a péché. Et elle nous est donnée comme si nous, on l'avait fait. Et non seulement ça, mais il y a, sur la croix, il a subi l'équivalent des souffrances que nous aurions dû nous subir en enfer à notre place. Es-tu beau? Moi, si ça ne vous émeut pas, là, moi, ça m'émeut profondément. Parce que, premièrement, si on comprendrait ce que c'est d'être en enfer, ne serait-ce qu'une minute, si Dieu permettait, OK, on va te faire une petite expérience, on va t'envoyer là une minute, puis quand tu reviendras, on va te demander, ça te tentera-tu de vivre passer ton éternité là? Je pense que vous diriez non. Alors, c'est grand, là, le salut, c'est très grand. Alors, on va continuer dans 1 Corinthiens. Il dit, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Lors de son avènement, c'est quoi? Lors de son retour. Alors qu'il va revenir. Il a dit qu'il viendrait de sa seconde venue. Verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est un esprit vivifiant. Quand il dit le premier Adam, puis qu'il dit le deuxième Adam, de quoi il parle? Le premier Adam, c'est vraiment l'Adam créé par Dieu lui-même en personne. Le second, c'est la personne de Christ que Dieu a envoyé sur la terre, qui est venu au monde comme un homme, mais qui avait la double nature, la nature divine et la nature humaine dans une seule personne. Une personne, deux natures. Verset 46, « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel revient ensuite. » Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Là, on va aller dans le jour 1. Une longue introduction, mais c'est pas grave. Si ça prend deux semaines, puis ça, le son long, la fera. C'est important qu'on le fasse comme il faut. Alors, le jour 1, c'est dans versets 2 à 5 du chapitre 1. Ça dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Les libéraux, pas le parti politique, les libéraux en théologie, c'est ceux qui doutent de tout. Peu importe ce que la Bible dit, ils trouvent toujours un moyen de dire que ça ne veut pas dire ça, ah, c'est d'autres choses. L'esprit moderne, scientifique, qui pense qu'aujourd'hui, on sait mieux que les Écritures. On les appelle les libéraux, mais moi, je les mets avec le même camp que les incroyants. Alors, les libéraux et les incroyants ont souvent objecté à la vérité de ces versets. Mais pourquoi? Leur argument est le suivant. Comment peut-on parler d'apparition de la lumière avant la création du soleil qui a eu lieu uniquement le quatrième jour? Voyez-vous leur argumentation? C'est comme si eux croient que la lumière, vu qu'on sait aujourd'hui qu'elle vient du soleil, là, Dieu dit qu'il a créé la lumière, que le soleil n'était pas là. Ah, oh, il y a un problème, là. Mais il n'y a pas de problème. Parce que 1 Jean, chapitre 1, verset 5, nous dit que Dieu est lumière. Voyez-vous, ça dit la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. On va aller deux autres versets qui parlent du fait que Dieu est lumière. Apocalypse 21, verset 23. Là, on parle de la Nouvelle Jérusalem. On dit, « La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Après ça, on va aller dans Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront pas besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Voyez-vous, est-ce que Dieu avait besoin du soleil pour donner naissance à la lumière? Il était lumière, il pouvait donner la lumière qu'il voulait, il est lumière. Alors c'est un argument qui ne tient pas debout du tout. La lumière est une œuvre divine. Alors Dieu crée, c'est bizarre parce que quand on regarde là-dedans, il crée d'abord l'obscurité. Parce que dans le verset 2, on dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface. Donc, il avait créé les ténèbres avant la lumière. Alors, le Seigneur dit dans Ésaïe 45, verset 7, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Alors, il s'agit bien d'une création immédiatement efficace par une parole revêtue d'autorité. Il y a juste besoin de le dire. Ça apparaît. On ne se rend pas compte, mes amis. Il faut vraiment réfléchir des fois, aller dans les données, on l'a vu un petit peu les autres semaines, les données de l'astronomie, les données de la biologie, les données de tout ce qui est vivant, pour voir jusqu'à quel point tout ça est d'une complexité incroyable que les scientifiques étudient depuis des milliers d'années et qui découvrent de plus en plus toute la super complexité de ça, et ça s'est fait. Il a dit, et ça y était. Incroyable. Il faut parfois arrêter. Alors, cette lumière vient du Dieu qui est lumière et en qui il n'y a point de ténèbres et habite. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, que Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu peut dissiper les ténèbres sans faire appel au soleil. Quel argument pour essayer de nous faire douter que la Bible est tout croche et que la science a compris mieux que ce que le Seigneur lui-même dit. Il ne faut pas oublier une chose. Les Écritures nous disent que toute Écriture, du premier verset de la Genèse au dernier de l'Apocalypse, est littéralement soufflée de Dieu. Quand on lit ça, là, on ne lit pas un livre de comique, on lit le livre que Dieu nous a donné pour notre instruction. Et si on préfère croire la science à son livre, là, on fait une erreur monumentale. Alors, Dieu peut dissiper les ténèbres sans faire appel au soleil. Et ce que j'ai trouvé dans un livre, j'ai un livre sur la Genèse, la maison, écrit par un réformé baptiste, et il dit la phrase suivante, mais il ne dit pas qu'il a pris son information. Il dit « Les scientifiques confirment l'existence de la lumière avant celle du soleil. » Voyez-vous? On a l'air fou quand on dit ça, parce qu'on dit « Ah oui, c'est juste basé sur la foi. » Mais même la science, mais je ne sais pas où qu'il a pris son information, puis sur quoi il se base, mais il reste que je crois ce qu'il dit. Alors, la lumière, c'est vraiment une œuvre divine. Et dans le verset 4 et 5, le Seigneur nous dit que tout était bon. Voyez-vous, Ésaïe 45, verset 18, nous dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Alors, quand on parle de la création de l'arrière-scène, on prend les trois premiers jours, on est en train de voir comment Dieu est en train d'amener à l'existence les conditions pour l'apparition de la vie et celle de l'homme en particulier. Alors, il y a quelque chose de mystérieux dans la lumière. Les scientifiques, aujourd'hui, peuvent analyser la lumière avec ses 7 teintes prismatiques. Si vous prenez un prisme, faites passer à travers, il va sortir 7 couleurs. Alors, ils peuvent théoriser sur les méthodes de la transmission de la lumière. Ils peuvent calculer son incroyable vitesse en passant 186 000 milles à la seconde, 25 fois le tour de la Terre en une seconde. Ça, c'est des choses connues. Ils peuvent élucider les lois de sa dispersion. Comment ça se fait que quand l'eau traverse un métal ou à travers de l'eau, il y a comme une dispersion? Et comment utiliser sa puissance cachée dans ses rayons? Tu sais, on appelle ça le laser. C'est quoi le laser? Light Amplification and stimulation by emulation of radiation. C'est l'énergie qu'il y a dans la lumière. On sait ce que c'est capable de faire. C'est capable de prendre un mur d'acier, ça dépait. Puis si le rayon est correct, c'est capable de couper l'acier avec ça. Ça, c'est de la lumière. Y a-t-il un côté mystérieux, la lumière? Est-ce que les scientifiques ont tout compris ce que c'est de la lumière? Aucunement. Dans le livre de Job, verset 38, chapitre 38, on a étudié le livre de Job récemment, versets 19, 20 et 24. Le Seigneur posait à Job des questions pour l'humilier. Vous vous souvenez-vous? Il dit, Dieu parle à Job, il dit, « Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir, leurs limites, et connaître les sentiers de leur habitation? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? » Oui, il posait des questions pour l'humilier. Et le Seigneur pourrait poser les mêmes questions aujourd'hui aux plus grands scientifiques qui ont étudié la lumière toute leur vie, et ils ne seraient pas quand même aujourd'hui capables de répondre à ces questions-là. Ils sont capables, ils ont des théories, ils ont des connaissances accumulées qui sont énormes, mais ils ne peuvent pas vraiment grand. Le côté magnifique de la lumière fut. La lumière nous permet de voir les couleurs. Si je vous vois tous, puis si je fermais la lumière, puis on fermait les châssis, puis vraiment hermétiquement, la lumière permet de percevoir les couleurs. On a-tu des satisfactions de l'œil quand on regarde les beautés de la nature, les montagnes, les fleurs, les cours d'eau. Des fois, les couchers de soleil, ça se garoche par terre tellement c'est beau. On a envie d'adorer tout là. Et ça, c'est la couleur, c'est la lumière, c'est Dieu qui nous a donné ça par la lumière. Il y a un côté aussi qui est immaculé et incorruptible à la lumière. Il y a un côté aussi utile et essentiel. La lumière est essentielle à la vie. Si Dieu ne permettait pas qu'il y ait du soleil, les fleurs mourraient. Nous, on mourrait, parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans le noir. Il y a eu des expériences qui ont été faites par des psychologues d'enfermer une personne dans le noir pendant un certain temps, et apparemment que c'est très, très, très perturbant psychologiquement. On n'est pas fait pour vivre comme ça. Alors, les exemples, par exemple, les végétaux se nourrissent en partie de la lumière du soleil grâce au processus de photosynthèse. L'énergie transportée par la lumière permet de réchauffer la terre et ainsi de créer un climat adéquat pour le développement de la vie. Pour les animaux, la quantité de lumière solaire reçue peut être un signal pour l'hibernation ou encore pour la reproduction. L'automne, là, je me souviens, resté à l'île d'Orléans. Nous, on s'assoyait des fois. L'automne, on voyait les oiseaux arriver, on voyait les oiseaux partir. Puis quand ça passe au-dessus de l'île d'Orléans, là, ça couvre quasiment toute l'île au complet. C'est vraiment impressionnant à voir. Qu'est-ce qu'il dit aux oiseaux? C'est tant que tu t'en as dans le sud, là, mon ami. Ici, lui, il regarde son calendrier, il dit « Ah, OK, c'est le mois de septembre. » C'est la lumière. Dieu permet que l'oiseau, par la perception du niveau de lumière, comprend que c'est le temps qu'il s'en aille. L'ours, la même chose. L'ours comprend qu'arrive un certain temps où il est temps d'hiberner. Alors, la lumière, elle a un rôle essentiel dans toute la vie. De nombreux phénomènes astronomiques impliquent les rayons lumineux. Par exemple, le cycle du jour et de la nuit, les phases de la lune et les éclipses sont explicables à l'aide des propriétés de la lumière. Elle est universelle, gratuite, silencieuse et bienvenue. Des fois, quand il fait nuit et qu'on ne voit rien, puis que la lumière arrive, on est donc content. Avez-vous déjà expérimenté les ténèbres, mais vraiment profondes? Une fois, moi, je travaillais, puis c'était un endroit où, si tu rentrais dans une salle de bain, il n'y avait aucune fenêtre, et la porte était tellement bien fermée en bas, là, qu'il rentrait aucune lumière. Tu sais, quand on dit dans le livre de l'Exode que Dieu avait permis des ténèbres si profondes qu'on pouvait presque les toucher, Bien, j'ai senti ça de la première fois de ma vie, parce qu'on n'est jamais dans les ténèbres complètes, mais quand on l'est, on file pour bien là-dedans. On voit rien, mais vraiment, là, non, on voit que là, la lumière, quand on allume, on est donc content de la voir apparaître. Ecclésiaste 11, verset 7, nous dit « La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. » N'est-ce pas que ça a un impact sur notre humeur? Quand on a le temps de prendre des vacances, puis ils nous disent « Ah, ben pour les 15 prochains jours, tu pars en vacances, il va faire beau, tenez-vous! » Alors, on est sur les jusqu'aux oreilles. Puis s'ils disent « Ben il va pleuvoir, puis le temps va être sombre pendant 15 jours, là, ça ne fera pas des belles vacances. » Alors, ça a une influence énorme sur nous. Dans le psaume 130, au verset 6, on lit « Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Si quelqu'un devrait être gardien de nuit, il arrive 4h, 4h30 le matin, et as-tu hâte de voir apparaître le soleil poindre, pour que ça va sortir de son... Maintenant, on a vu, et on pourrait en parler beaucoup longtemps, de la lumière. Là, on a vu les aspects physiques de la lumière. Mais est-ce qu'à partir du chapitre, des versets qu'on vient de lire, est-ce qu'on peut faire des applications spirituelles sur est-ce que les Écritures utilisent le mot « lumière » pour parler de la vérité? Est-ce que les Écritures utilisent le mot « lumière » pour parler de Christ? Voyez-vous, ce qui est vrai du domaine physique l'est aussi du domaine spirituel. Voyez-vous, ceux qui étaient autrefois morts par leurs offenses et leurs péchés sont rendus à la vie en Christ et décrits ainsi. Là, les Écritures parlent de nous. Et ça dit autrefois, en parlant d'avant notre salut, avant la réception, avant notre nouvelle naissance, autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Paul nous explique que on est une nouvelle création et il utilise le langage de la Genèse pour décrire ce changement. Car il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. C'était le verset qui était là, mais je viens de le voir. C'était « La lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire sur la face de Christ. » 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Donc, la lumière, la création de la lumière, il y a l'aspect physique, mais les Écritures utilisent le phénomène de la lumière physique pour nous montrer qu'elle a son parallèle dans le monde spirituel. Versets 6 à 8, maintenant, on parle de la création de l'atmosphère. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc, encore une fois, l'atmosphère, c'est une œuvre divine. L'étendue, c'est une séparation des eaux d'avec les eaux. Ça semble nous indiquer que l'eau à la surface de la terre, il y avait de l'eau, bien entendu, au sol, mais il y avait de l'eau aussi en haut. Et il fallait que Dieu crée un espace entre les deux, l'étendue. On parle de l'étendue. Voyez-vous, le psaume 19, verset 2 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue, en anglais dans la King James, c'est « the firmament », le firmament manifeste l'œuvre de ses mains. Alors, dans le firmament, les Écritures nous disent « manifester », ça veut dire « rendre visible, rendre perceptible ». Donc, le firmament rend perceptible la gloire de Dieu. Alors, on sait que l'atmosphère et l'air qu'elle contient est indispensable à la vie. Sans oxygène, l'homme ne pourrait survivre. L'oxygène supporte la vie animale et la vie végétale. Elle est aussi utile des fois, on ne pense pas à ça. Et quand on fait une leçon comme ça, des fois, il nous ramène certains faits qu'on a besoin de savoir. S'il n'y avait pas d'atmosphère, est-ce qu'on entendrait les sons? Pas d'atmosphère, pas de son. L'atmosphère transmet le son. Si on enlèverait l'atmosphère de la salle ici, je parlerais, vous entendriez zéro. Elle conduit la lumière, la réfracte, la décompose, elle fait monter les vapeurs. On le sait comment le cycle de l'eau, ça monte, ça va des nuages, ça redescend, ça monte, ça va des nuages, ça redescend. C'est à cause de l'atmosphère qu'on a ça. Ça se cumule dans les nuages, c'est dispersé par les vents. Et s'il n'y avait pas l'atmosphère, il n'y aurait pas d'humidité dans l'air. Et sans humidité dans l'air, tout ce qui est vie sur la Terre périrait. C'est à cause de l'atmosphère et de ce voyage de l'eau qui part, qui voyage. S'il n'y avait pas zéro humidité, si c'est vraiment zéro humidité, on mourrait toute la gang. Sans elle, l'atmosphère, pas de pluie, pas de neige, pas de rosée. Imaginez. Alors, l'atmosphère assiste l'homme dans ses activités chimiques, commerciales et scientifiques. On pourrait donner une multitude d'exemples. Elle est gratuite et complètement obéissante à la volonté du Seigneur. Voyez-vous, quand on lit le psaume 148, les versets 7 et 8, on parle des éléments qui obéissent à Dieu. On le sait, quand Christ est venu sur la terre, il y a eu une tempête sur le lac, tout le monde pensait, « Ah, on va mourir, Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose. » Michel n'en va pas, il dormait à la poupe. Il s'est levé et il a dit, « Hey, on se calme. » Ça s'est calmé. « Hey, donnez des ordres à la nature, vous essayerez ça, vous m'en reparlerez. » Disons, psaume 148, versets 7 et 8. « Louez l'Éternel du bas de la terre, monstre marin, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, et c'est la dernière partie qui est merveilleuse, vous qui exécutez ses ordres. » Ça veut dire que le Seigneur donne des ordres aux abîmes, au feu. Quand il parle du feu, c'est souvent les éclairs. Le feu, la grêle, la neige, le brouillard, les vents impétueux. Quand il y a des tempêtes de vent, là, c'est pas un hasard, ça. Dieu les conduit, les éléments obéissent à Dieu. C'est décrété par le Seigneur. Quand on comprend ça, là, on n'a plus la même vision des choses face aux éléments, aux tempêtes, de pluie, de neige, ce que tu voudras. Quand il arrive la neige, là, des fois, on rudimera encore un petit peu quand on envoie 6 pouces au-dessus de notre trou. Là. Mais il faut se souvenir qu'on ne devrait jamais chialer contre ça, parce que c'est Dieu qui permet toutes ces choses-là. Et c'est lui qui commande ces choses-là. Alors, comme si on avait autant d'obéissance que les éléments en ont face à Dieu, on n'aurait pas de problème. Alors, est-ce que parmi nous autres, cette semaine, il y a eu quelqu'un qui a rendu grâce à Dieu pour l'air qu'on respire? C'est rare qu'on fait ça. C'est vrai, l'auteur me faisait penser à ça. Il dit, combien de choses que le Seigneur nous donne, puis on les consomme, qu'on pourrait dire, on ne se rend même pas compte que c'est un don de lui. On devrait remercier Dieu même pour ça. Sommes-nous conscients que l'air est parmi les plus grandes bénédictions que Dieu nous donne et qu'il constitue un cadeau divin? Avons-nous déjà loué Dieu pour ce grand bienfait, malgré son invisibilité et son silence? Le cadeau divin est pourtant universel et quotidien. Là, il faut que je vous raconte quelque chose. Si je vous posais la question, la pression atmosphérique, c'est combien de livres vous pouvez scorer? C'est bizarre parce qu'en faisant ma leçon, je me suis souvenu que j'avais étudié ça dans le temps à l'école. 14,7 livres au pouce carré. Normalement, là, la pression atmosphérique est tellement pesante qu'elle devrait vous écraser littéralement. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, je vais aller voir sur Internet. J'ai mis 14,7 livres au pouce carré. Et là, j'ai trouvé des informations là-dessus. J'ai trouvé une vidéo. où je vous raconte une vidéo qui est extraordinaire. La petite vidéo a été faite par des Français. Ils ont pris une petite planche, à peu près 4 pouces de large, à peu près un quart de pouce d'épais, à peu près 2 pieds de long. Là, ils l'ont mis sur une table. Et là, il y a quelqu'un qui a pris un journal, puis il l'a pris dessus, puis il a bien lissé la partie qui est sur la table. Puis il dépassait un pied du bout de la table. Et là, ils ont fait venir un gros bonhomme de la salle, et le gars devait peser à peu près 250, 280. Un énorme bonhomme. Ils ont dit, d'après toi, là, si tu donnes un coup de karaté là-dessus, c'est quoi qui va arriver? La feuille de journal va partir au vent. Mais, savez-vous ce qui arrive? C'est que quand la feuille est bien lissée, même un coup de ce gros bonhomme-là a fait en sorte que la planche a cassé, l'autre bout de la planche a resté sur la table. Comment on peut expliquer ça? La pression atmosphérique, 14,7 livres au pouce carré, 1 kg au centimètre carré. La Bible, la science nous apprend que si Dieu ne nous avait pas fait d'une telle façon que de pouvoir rééquilibrer la pression extérieure, parce qu'on a une certaine pression à l'intérieur, on a des poumons, si on n'aurait pas un rééquilibre de ces choses-là, on serait littéralement écrasé. Hey, pense-y, 14 livres au pouce carré. C'est énorme. Puis Dieu a fait en sorte qu'on soit bâti de telle façon qu'on soit capable de supporter ça. On ne s'en rend même pas compte. Mais quand on voit l'expérience, on dit « Waouh, c'est fort! » La feuille de papier, la planche est là, bien lissée, puis il casse la planche, mais le journal ne lève même pas. C'est flayé. Quand on pense à ça, ça nous montre des choses qui sont autour de nous, qui sont merveilleuses, puis que parfois on perd de vue. Je pense qu'on va arrêter là, parce que j'ai encore un point à faire, puis j'aurai pas le temps de le terminer. Alors, on va arrêter là. Notre Dieu, notre Père, on vient encore une fois à tes pieds. On a tellement de choses à apprendre sur des choses que tu as créées dès le premier jour, la lumière, l'étendue, la pression atmosphérique, et tout ce que ça contribue, Seigneur, à notre bien-être. Alors, Seigneur, permets qu'on soit de plus en plus éveillé à ces choses-là, parce que ça nous donne une occasion de te louer pour des choses que, souvent, on oublie de le faire, parce que combien de choses comme ça on reçoit chaque jour et qu'on oublie, Seigneur, que c'est toi qui es le Créateur, c'est toi qui es le Maître de toutes ces choses. Alors, Seigneur, on te prie de permettre qu'on puisse apprendre quand même quelque chose de nature spirituelle, d'appliquer, bien sûr, Seigneur, la lumière, tu es lumière, alors ta nature même est lumière, et quand tu nous crées et que tu parles de l'Évangile, tu nous dis que l'Évangile est la lumière, et l'atmosphère, elle aussi, elle est indispensable à la vie. Alors, Seigneur, permet qu'on apprécie de plus en plus ces choses, parce que ce sont des choses qui manifestent ta puissance, ta bonté, ta gloire. On te demande toutes ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.